musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Comme à l'accoutumée, nous sommes ensemble pour vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Les fêtes de Tichri viennent à peine de se terminer que résonnent encore dans nos têtes les airs liturgiques qui ont bercé ce mois d'une intense ferveur. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette émission à la musique d'une prière hautement symbolique, la prière du Kol Nidré, qui marque le début du Yom Kippour, une des fêtes, sinon la fête la plus solennelle de l'année juive. Et pour nous accompagner dans cette plongée à la fois historique, musicale et liturgique, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Bruno Freitag, vice-président de l'ULIF Copernic et administrateur du Centre français des musiques juives. Bruno Freitag, bonsoir.
Bonsoir.
Outre vos qualités d'administrateur, Bruno, vous êtes un passionné qui est à l'origine de la saison musicale de la synagogue de la rue Copernic. Et moi, j'avais une question à vous poser en tout premier, avant que nous rentrions vraiment dans la musique. C'est quand même assez rare que des synagogues organisent des saisons, des véritables saisons musicales. Alors, d'où vous est venue cette idée ?
Eh bien, l'ULIF Copernic est très engagé dans la culture juive et organise de nombreuses activités culturelles toujours lié au judaïsme, des conférences, des cours de pensée juive, des brevets bibliques, des visites d'exposition, etc. Donc une saison de concerts s'imposait, en fait, de concerts de musique liée au judaïsme, afin à la fois de faire vivre la musique juive traditionnelle et puis aussi de susciter une création musicale juive.
Et je crois que c'est dans le cadre de ces créations musicales que vous avez eu cette idée absolument géniale de donner en novembre 2009, ça commence à remonter il y a maintenant 2 ans, à 2 reprises un concert autour de cette prière du Kol Nidré. Alors pourquoi ce choix, pourquoi ce concert, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette prière ?
Alors, à dire vrai, à la fois la mélodie sublime du Kol Nidré, hein, mélodie extraordinaire, anonyme, dont l'auteur est anonyme et dont vous nous parlerez certainement plus en détail, Hervé, je n'en doute pas. Mélodie chantée une fois par an, qui est la même dans la plupart des synagogues, en tout cas ashkénazes. Et puis, son caractère tout à fait unique. Il faut dire que la musique liturgique a suscité beaucoup de chefs-d'œuvre, mais il me semble que la mélodie du Kol Nidré en fait partie. Et puis, il faut dire aussi que nous avons été poussés dans cette voie par la violoncelliste Martine Bailly, qui a proposé non seulement de jouer naturellement le fameux Kol Nidré de Max Bruch, mais aussi un certain nombre d'autres pièces qui ont été interprétées lors de ce concert.
Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter dès à présent, pour nous mettre dans l'ambiance de ce Kol Nidré, le début donc de cette prière dans sa version traditionnelle, arrangée par Samuel David, interprétée ici par le chanteur Armand Benamou, accompagné de l'ensemble Choral Copernic et Nicole Wiener à l'orgue.
Thank you.
Nous venons d'entendre le Kol Nidre dans sa version traditionnelle, arrangée par Samuel David, un extrait d'un disque qui s'appelle justement Kol Nidre, publié il y a maintenant un an par la Fondation du judaïsme français dans sa collection Patrimoine musical des Juifs de France, et qui est justement fait d'après le concert que vous avez organisé, Bruno Freitag. Nous avons entendu juste la première partie de cette prière, puisque ce thème revient à trois reprises, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à chaque fois, il intervient un demi-ton plus haut, c'est-à-dire que la voix s'élève comme si la prière montait vers le ciel. Ce qui est intéressant également, Bruno, c'est que au cours de ce concert, on avait non seulement la musique, mais une explication de texte, je dirais. Et nous avions donc le rabbin Delphine Horviller, qui est venu nous expliquer le sens de cette prière, qui est quand même très particulière, parce que elle offre aux fidèles la possibilité d'annuler leurs vœux, de ne pas respecter les promesses qui ont été pourtant contractées. Et le texte de cette prière est d'autant plus polémique qu'elle a souvent été utilisée dans l'argumentation antisémite pour justifier l'appel à la haine, arguant que la parole des Juifs n'était pas fiable, que ceux-ci revenaient sur tout leur engagement. Il n'y avait pas que les antisémites qui critiquaient et qui ont critiqué cette prière, puisque même les rabbins, à travers l'histoire, ont aussi été très sévères envers le Kol Nidre, jugeant que le texte de cette prière n'avait aucun sens et qu'il s'agissait même d'une tradition idiote, selon les mots même de deux sages de l'école babylonienne du 9e siècle, Natroné et Amran, et tradition que le Yehuda Barzilai, au 12e siècle, souhaitait purement et simplement éliminer du rite ashkénaz. D'ailleurs, ce texte a tellement gêné les rabbins du Moyen-Âge qu'ils en ont changé le texte originel, qui disait en substance, et ça c'est important dans la nuance, que soient annulés nos vœux depuis ce Yom Kippour jusqu'au prochain que nous vivrons. Et donc ils l'ont transformé en « Tous les vœux, tous les serments que nous avons prononcés sont nuls et non avenus. Tout ce que nous avions promis depuis Yom Kippour dernier jusqu'à celui-ci doit être considéré comme nul. » On peut se poser la question pourquoi les rabbins ont changé ce texte. Tout simplement parce que ces mots les gênaient et l'idée leur semblait absurde. Comment annuler à l'avance des paroles qui n'ont pas encore été prononcées? Et justement, le rabbin Delphine Horviller nous explique le sens de cette prière par un très beau texte que vous retrouverez dans la plaquette de ce disque Kol Nidre, en arguant que finalement, ce Kol Nidre est un appel à l'humilité. Nos vœux ne sont pas des vœux et nos serments ne sont pas des serments. Et je cite le rabbin de Horviller, car toutes ces paroles que nous prononçons aujourd'hui avec certitude, tous ces moments où nous sommes si sûrs de nous, toutes ces paroles qui ne laissent pas de place au doute, doivent être questionnées. au jour du grand pardon, nous faisons face à notre mortalité, nous envisageons la limite de notre vie et la limite de notre pouvoir, et le Kol Nidre, plus que tout autre texte, semble nous dire « Les vœux et les serments que tu prononceras plein d'assurance, envisage aujourd'hui de ne pas tous les respecter. N'imagine pas que tu pourras tenir tous tes engagements, ne sois pas si sûr de toi. Apprends avec humilité à reconnaître tes limites. » Le Kol Nidre est donc un refus de la certitude et nous replace face à l'imperfection de notre humanité. Nous allons entendre dès à présent une deuxième version de ce Kol Nidre, une version historique dont je parlerai juste après. Nos auditeurs auront peut-être reconnu une version historique, en effet, puisqu'elle est extraite du premier film parlant de tous les temps, The Jazz Singer, le chanteur de jazz, film parlant de 1927. Et ce film met en scène, justement, le fils d'un chantre, donc joué ici par Al Jolson, qui est en rupture avec le judaïsme et qui souhaite devenir chanteur de jazz, et qui, en l'occurrence, renonce à un show très important le jour de Kippour pour venir chanter le Kol Nidre à la place de son père, alors très malade. Et dans mon souvenir, l'interprétation qui nous est donnée a été doublée par le grand Yossele Rosenblatt. Donc l'air de cette prière a marqué, vous le voyez, non seulement les fidèles, mais également, bien au-delà du cercle juif, de nombreux musiciens. Avant de parler justement de ces compositeurs et musiciens qui se sont emparés de cette air, il me semble indispensable de signaler que cette prière possède une particularité quand même peu commune dans la liturgie juive. Sa mélodie, à quelques variantes individuelles près, est quasiment identique dans toutes les communautés ashkénazes. Ceci est loin d'être le cas pour les communautés séfarades où le Kol Nidre se chante généralement sur le mode usuel des prières qui varie selon les traditions locales ou régionales. Et pour illustrer notre propos, je vous propose d'écouter dès à présent le début du Kol Nidre dans deux traditions séfarades, notamment une tradition algéroise et une tradition marocaine.
Kol Nidre
Deux versions du Kol Nidre dans un rite séfarade, ou plutôt dans deux rites séfarades, et je corrige d'ailleurs mon propos. La première version était chantée par David Abixer, et c'est un rite marocain. Et dans la deuxième version, vous aurez reconnu, je le pense, Philippe Darmon, qui chantait dans le rite algérois. Deux enregistrements magnifiques que vous pourrez retrouver notamment sur le site du Centre français des musiques juives, www.cfmj.fr, où vous pourrez chercher les références de tous les extraits que nous entendons ce soir. Mais revenons à notre mélodie unique du Kol Nidre Ashkenaz. Et une question demeure, pourquoi y a-t-il une seule mélodie dans le monde ashkénaze alors qu'il y en a peut-être des dizaines, voire des centaines dans le monde séfarade? En fait, on ne le sait pas exactement. On a plusieurs hypothèses, Bruno. Manifestement, la source de la version mélodique ashkénaze est unique. Et s'appuyant sur ce fait, certains ont prétendu que cette mélodie remontait à la plus haute antiquité. Le Kol Nidre serait issu des Nigunim Sinaï, ce qu'on appelle les mélodies du Sinaï, qui, selon la tradition populaire, auraient été révélées à Moïse sur le mont Sinaï en même temps que la loi orale. Cette première hypothèse relève plus de la légende que de la réalité. Le texte du Kol Nidre ne datant probablement que du 8e siècle de l'ère chrétienne. Quant à la mélodie, elle n'est attestée de façon certaine qu'en 1765, où on la trouve notée pour la première fois dans un manuscrit du chantre berlinois Aaron Baer. Une deuxième hypothèse attribue la paternité de ces mélodies du Sinaï au rabbin Erazan, Jacob ben Moshe Alevi Melin, qu'on dénomme le Maharil, qui a vécu entre 1360 et 1427, et dont les nombreux arrêts concernant des questions de pratiques religieuses ont contribué à stabiliser les traditions ashkénazes. Cependant, petit bémol, la prière du Kol Nidre a été considérée tardivement comme une des mélodies du Sinaï, bien après la mort de Jacob Melin. La première mention d'une mélodie établie pour le Kol Nidre est attestée dans les écrits du rabbin Mordechai Jaffé de Prague, entre 1530 et 1612, mais guère avant. Et selon le chantre américain Sherwood Goffin, la mélodie ashkénaze actuelle ne remonterait guère au-delà du 15e ou du 16e siècle, et serait en réalité une compilation de différents motifs musicaux des mélodies du Sinaï. Une troisième hypothèse, défendue notamment par le regretté musicologue israélien Hanor Avri, avance l'idée que ces mélodies du Sinaï proviendraient en fait du Moyen-Âge. Et Hanor Avri suggère notamment que les souffrances au temps des croisades ont incité les juifs ashkénazes à exprimer en musique le profond sentiment qui émane de ces mélodies. Enfin, quatrième et dernière hypothèse, qui voit dans le chant grégorien, la source d'inspiration musicale du Col Nidré, avec notamment l'influence de l'école du chant de Saint-Gall au Moyen-Âge, avant le XIe siècle. Et selon cette théorie, l'ouverture du Col Nidré est ce qu'on appelle dans le plein chant catholique un pneuma, où l'on annonce les mots d'ouverture par un long ton soupirant descendant dans les graves avant de remonter. Et ce soupir, entrecoupé de sanglots, était la seule façon jugée acceptable pour un razan d'inaugurer le jour de l'expiation, plutôt que de commencer par des phrases déclamatoires familières ou monotones. Et l'usage semble avoir commencé dans le sud de l'Allemagne. Cette hypothèse grégorienne est cependant sujette à caution. On a souvent établi des parallèles entre le chant grégorien et la liturgie synagogale. Il en est en effet probable que le plein chant occidental chrétien puisse son origine dans le chant des psaumes et des hymnes déjà présents dans la liturgie synagogale. Cependant, le chant grégorien présente aussi des éléments musicaux qui diffèrent fortement de ceux présents dans la musique synagogale, et dans cette mélodie du Col Nidré en particulier. En définitive, le mystère demeure. La mélodie du Col Nidré est-elle issue des musiques traditionnelles juives, des musiques chrétiennes? On ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Rappelons toutefois qu'une musique ne naît pas juive, elle le devient, de par son utilisation constante et répétée dans un cadre juif. Et tel est bien le cas de cette mélodie du Col Nidré, mélodie emblématique, au point que lorsque les autorités du judaïsme libéral allemand décidèrent en 1844 de supprimer cette prière de l'office de Kippour, l'air, la mélodie, fut conservée et appliquée à deux psaumes, les psaumes 103 et 130. Et plus tard, les fidèles exigèrent sa réintégration et le rabbinat dut céder. Bruno Freitag, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette mélodie a inspiré de nombreux compositeurs, juifs et non-juifs. Pourriez-vous nous en citer quelques-uns ?
Oui, avec plaisir. Ben, on va commencer par Max Bruch. Max Bruch, puis on parlera peut-être après d'Arnold Schoenberg, par exemple. Max Bruch était un compositeur protestant. Son nom aurait pu évoquer une origine juive, mais il était réellement protestant. Et il a entendu cette mélodie à Berlin en 1879. Il fut touché par sa beauté et l'utilisa dans son adagio sur des thèmes hébraïques pour violoncelle, harpe et orchestre, opus 47, qu'il rendit célèbre dans toute l'Europe, et en particulier avec les transcriptions qu'il en a faites pour violon, piano, violoncelle, piano, etc. Thank you.
Bruno, qu'est-ce que nous venons d'entendre exactement ?
Donc, nous venons d'entendre le Conidré de Max Bruch dans une de ses versions les plus souvent jouées pour violoncelle et piano, avec ici Martine Bailly au violoncelle et Simon Zawi au piano, Martine Bailly qui a été, comme vous le savez, Hervé, pendant 25 ans, le premier violoncelle solo de l'Orchestre de l'Opéra de Paris.
Alors, il s'agit juste du début de ce Conidré, évidemment. Je vous encourage à écouter la suite. C'est une œuvre magnifique. À noter que, d'ailleurs, ce Conidré de Max Bruch n'utilise pas que le thème du Conidré, puisqu'il s'agit que du premier thème qui est utilisé et qu'il utilise un autre thème hébraïque dans la suite de son développement. Vous avez signalé tout à l'heure que Max Bruch n'était pas juif, mais ce Conidré lui a valu des embêtements, même posthumes, puisque à l'époque nazie, cette œuvre a évidemment été interdite et Max Bruch, dans son ensemble, l'œuvre de Max Bruch, également interdite. Puisqu'on parle de l'époque nazie, il y a également un compositeur dont vous avez cité le nom qui a souffert de cette époque-là. Il s'agit, je crois, d'Arnold Schoenberg.
Ouais, tout à fait. Arnold Schoenberg, qui s'était converti dans sa jeunesse au christianisme, a fui l'Autriche en 1933. Il s'est arrêté une petite année à Paris, où d'ailleurs il s'est reconverti au judaïsme à la synagogue de l'Ulif Copernic. Et puis, à son arrivée aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément, il a reçu la commande d'un Conidré qu'il a écrit, qui est un morceau absolument splendide, relativement tonal, sachant qu'en 1933, Schoenberg était déjà tout à fait dans sa période atonale depuis longtemps. Et cette prière, ce morceau fut donné d'ailleurs le soir de Conidré 1938 à Los Angeles sous sa direction.
Et c'est, je crois, d'autant plus symbolique qu'avant d'écouter ce morceau, vous me l'aviez signalé hors antenne, mais le Conidré a souvent fait une forte impression. On cite l'exemple d'un philosophe qui, par exemple, si vous pouvez me rappeler son nom, je crois, qui était rentré dans une synagogue donc le soir du Conidré, qui s'apprêtait à quitter le judaïsme, très fortement attiré, je crois, par le protestantisme, et en entendant les accents de cette prière, est revenu au judaïsme. Et ce qui est un peu le cas de Schoenberg.
Vous faites probablement allusion à Lénao. Lénao, auteur d'un Faust, pas Goethe, mais un autre, et qui, effectivement, entendant le Conidré dans une synagogue le soir du Conidré, a pleuré. Je ne sais pas s'il était juif et qu'il s'apprêtait à quitter le judaïsme, mais en tout cas, il a été extrêmement ému par cette musique.
Donc nous allons entendre le Conidré d'Arnold Schoenberg, un extrait.
In the name of God, we solemnly proclaim that every transgressor, be it that he was unfaithful to our people because of fear or misled by false doctrines of any kind, out of weakness or greed, we give him leave to be one with us in prayer. Night. A light is sown for the pious. A light is sown for the repenting sinner. Kol Nidre. All vows, oaths, promises, and lights of any kind, wherewith we pledged ourselves counter to our inherited faith in God, who is one, everlasting, unseen, unfathomable. We declare these null and void. That these obligations have estranged us from the sacred task we were chosen for. Thank you.
moment till the next to avoid such and similar obligations, so that the Yom Kippur do come, may come to us for good.
Nous venons d'entendre un extrait du Kol Nidre de Arnold Schoenberg, une œuvre superbe que je vous invite à écouter bien entendu en entier. Il s'agissait ici d'une interprétation dirigée par le chef d'orchestre Michael Gillen. Ce Kol Nidre écrit en 1938, dans lequel on reconnaît, mais il faut le deviner, sous les instruments et le chœur, à la fin, le thème liturgique du Kol Nidre tel qu'on l'a entendu dans les versions précédentes. Mais ce thème, je crois, des compositeurs actuels s'en sont écartés. Pourriez-vous nous parler un petit peu, Bruno Freitag, de ces compositeurs? Est-ce qu'on compose aujourd'hui des Kol Nidre? Et est-ce que, justement, le concert que vous avez organisé n'était pas aussi destiné à susciter des vocations allant dans ce sens-là?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, dans le concert auquel vous faites allusion, de novembre 2009, on trouve Nicolas Bacri, qui a écrit, il y a déjà quelques années, une Kol Nidre sonata pour violon seul, mais dans laquelle on retrouve aussi le thème originel du Kol Nidre sous les notes des quatre mouvements de cette sonata. John Zorn, par ailleurs musicien de jazz new-yorkais, plutôt d'avant-garde, qui a écrit un quatuor à cordes, Kol Nidre absolument étonnant, mais là aussi on peut deviner un petit peu le thème du Kol Nidre en cherchant bien. Jean-François Zigel, qui a écrit un recueil de 12 mélodies hébraïques, dont un Kol Nidre pour violoncelle et piano, avec là aussi le thème traditionnel au départ, puis des improvisations. Et puis lors de ce concert du 18 novembre 2009, on a assisté à la création de 3 œuvres commandées par Luliv Copernic pour l'occasion. D'une part, un thème et variation pour violoncelle solo de Gracian Finzi, un morceau de Serge Kaufmann pour chœur, quatuor à cordes, piano, contrebasse, et puis un morceau d'Itai Daniel pour la même formation. Donc oui, on crée encore des Kol Nidre, Hervé.
Donc de ces Kol Nidre, j'ai pris le choix d'en retenir 3 qui me semblaient assez emblématiques. D'abord le Kol Nidre de John Zorn, parce qu'il est tout à fait étonnant, on ne s'attend pas à cela de la part de John Zorn, qui est quand même dans un tout autre registre. Rappelez-vous, c'est un compositeur américain et qui est fondateur du label Tzadik. Donc nous allons entendre un extrait de son Kol Nidre, un Kol Nidre tout à fait planant. Et puis nous entendrons après par la suite 2 autres Kol Nidre. Donc le Kol Nidre de John Zorn. Nous venons d'entendre la sublime interprétation du Colnidré de John Zorn par le Quatuor Enesco, donnée donc lors de ce concert public et sa captation en novembre 2009 et qui a été restituée dans le disque Colnidré publié par la Fondation du judaïsme français. Après ce Colnidré de John Zorn, cette soirée nous a offert d'autres Colnidrés, et notamment celui de Serge Kaufmann dont nous avons parlé auparavant. Serge Kaufmann est un compositeur français, d'origine suisse, né à Genève, mais qui a fait toutes ses études et sa carrière en France. Un compositeur que nous avions également mis à l'honneur dans la collection des patrimoines musicaux des Juifs de France de la Fondation du judaïsme français, puisque un disque lui a été dédié. Il s'agit d'un compositeur fortement influencé par la Shoah et qui a écrit une œuvre importante consacrée à ce thème. Et une œuvre profondément juive, bien que lui-même s'en défend, dans lequel ne figure aucun thème traditionnel juif. Et pour son Colnidré, Serge Kaufmann a fait la même chose. Il n'a utilisé aucun thème traditionnel du Colnidré, et pourtant on est tout à fait dans l'ambiance de cette prière. Donc je vous propose d'écouter le Colnidré de Serge Kaufmann, tout au moins le début de ce Colnidré. Nous venons d'entendre le Colnidré de Serge Kaufmann pour chœur, clarinette et quatuor à cordes, donc dans une version qui a été donnée donc à la synagogue de l'Olive Copernic en novembre 2009. Je crois que vous vouliez nous dire quelque chose justement sur ce concert, parce qu'il s'agissait d'une opération assez importante à monter quand même, faire composer des œuvres. Vous avez eu, je crois, près de 800 ou 900 spectateurs au cours de ces deux concerts. Et ce concert ne s'est pas fait seul, je crois.
Non, c'est exact. C'était une entreprise un petit peu complexe, mais qui s'est très bien passée, et en particulier grâce au soutien des trois autres communautés libérales de Paris, le MJLF, la CJL et Keilet Gecher, et du Centre français des musiques juives. Donc, tout ça est un partenariat qui a bien fonctionné.
Formidable. Et je crois que vous nous direz à la fin que vous allez reproduire cette opération, mais sur un autre registre. On va en parler un petit peu plus tardivement. Et je vous propose d'écouter encore une autre version, ou plutôt une autre vision du Kol Nidre, puisque le disque produit par la Fondation du judaïsme français à partir de ce concert s'appelle Kol Nidre 8 visions. Il s'agit bien de visions. Et donc nous allons entendre le Kol Nidre de Itai Daniel, une création mondiale à l'occasion de ce concert. Un extrait du Kol Nidre de Itai Daniel, un jeune compositeur d'origine israélienne qui réside à Paris déjà depuis quelques années et dirige notamment l'ensemble Vocal Copernic. Donc enregistrement donc capté au cours de ce magnifique concert de novembre 2009 qui a été publié dans le cadre de la collection de CD de la Fondation du judaïsme français. C'est donc le volume 9 que vous pouvez commander si vous souhaitez retrouver ces œuvres et les écouter intégralement. Commandez au 01 53 59 47 47, 01 53 59 47 47 ou sur le site de la Fondation du judaïsme français ou du Centre français des musiques juives. Ce disque comporte également donc les Kol Nidre de Jean-François Zigel, Nicolas Bacri ou encore Gracian Finzi. À propos de Gracian Finzi, je crois, Bruno, que vous nous avez amené dans vos bagages une surprise musicale liée à un concert qui va être donné prochainement à l'ULIF Copernic, toujours en partenariat avec les trois communautés libérales et le CFMJ. Pourriez-vous nous en dire rapidement quelques mots ?
Oui, avec plaisir. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc la même équipe, c'est-à-dire ULIF Copernic, MJLF, Keilat Gecher et CJL, et Centre français des musiques juives, va organiser les 27 et 30 novembre prochains un concert Kaddish avec des Kaddish liturgiques naturellement et puis des Kaddish écrits pour le concert comme celui dont vous venez de parler de Gracian Finzi pour voix, piano et violoncelle. Et puis il y aura là aussi des morceaux en création, une création de Jean-François Zigel d'une part et une création de l'américain Charles Bornstein. Donc ceci se passera le 27 et le 30 novembre prochain à l'ULIF Copernic.
Je vous invite dès à présent à réserver vos places parce que si c'est, comme cela s'est passé pour le Col Nidré, un succès aussi foudroyant, tout était réservé longtemps à l'avance. Donc n'hésitez pas à réserver vos places à l'ULIF Copernic. Et je vous propose, pour nous mettre en appétit, d'écouter un extrait du Kaddish de Gracian Finzi. Nous venons d'entendre le début du Kaddish de Gracian Finzi. Tout cela pour nous mettre en appétit et encourager nos auditrices et nos auditeurs à se rendre à ce concert des 27 et 30 novembre à l'ULIF Copernic. Chers amis, notre émission touche maintenant à sa fin. Les prochaines émissions seront consacrées aux musiques de la synagogue de Prague et aux musiques juives de l'époque baroque. Vous pouvez, comme à l'habitude, réécouter cette émission ou les précédentes sur le site du Centre français des musiques juives, dont je rappelle l'adresse www.cfmj.fr. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 77 71 96 57. Pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Freitag. Merci beaucoup, Bruno.
Merci.
Au micro, Hervé Rotten et David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.